et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions sur VOA Afrique. Eric Manelakidza avec vous et Joselle Morissin assure la réalisation de cette édition. La réouverture de Notre-Dame de Paris symbolise l'unité entre nation et religion. Un événement empreint d'émotion où art et foi convergent. Au-delà de l'esthétique, elle soulève des questions politiques et spirituelles, affirmant l'importance du dialogue interreligieux dans un monde en quête de paix et d'harmonie. Comment cette cathédrale, témoin de siècles d'histoire, peut-elle inspirer le dialogue interreligieux et renforcer l'espoir d'un monde plus harmonieux? Nous explorons ensemble les aspects spirituels, artistiques et politiques qui marquent ce jour inoubliable. Et nous sommes en ligne avec le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France. Pasteur Krieger, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Nous avons suivi cette cérémonie à Paris, un symbole de résilience et d'unité transcendant les frontières culturelles et religieuses. Pasteur Krieger, pour vous, quelle est la signification spirituelle de la réouverture de Notre-Dame de Paris pour les chrétiens et toutes confessions confondues?
Alors, je voudrais tout d'abord vous dire que je suis très heureux d'être interviewé en tant que pasteur et président de la Fédération protestante de France. Il pourrait paraître un peu surprenant qu'on interviewe un protestant pour dire ses sentiments, ses impressions de témoin privilégié de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. C'est un signe finalement de catholicité, c'est-à-dire d'universalité de l'Église. Je suis très heureux donc de participer à cette émission radio. Il y a plein de symboliques dans cette réouverture. Je crois que la première pour moi qui est extrêmement importante, c'est que on a vécu un événement planétaire. Un événement planétaire parce que plus de 32 chefs d'État sont venus à Paris pour la réouverture de cette cathédrale, pour l'inauguration. Alors il y a plusieurs temps. Et d'ailleurs il y a une séquence inaugurative, mais en tout cas pour l'inauguration officielle le samedi soir, il y a 32 chefs d'État, dont le président élu des États-Unis qui était présent. Et donc c'est extrêmement touchant de voir cette identification forte à ce bâtiment qui revêt une place symbolique forte dans l'imaginaire collectif. La cérémonie, la première messe, a eu une audience sur la télévision publique de plus de 2,2 millions, qui est tout à fait inédite pour une messe au niveau du service public. Et puis on a eu un plateau interreligieux avec tous les responsables de culte français qui précédait la première messe, avec aussi un taux d'audience tout à fait exceptionnel, de plus de 800 000 personnes à 9h du matin. Voilà, donc c'est un grand moment d'unité nationale et universelle.
Et que symbolise, selon vous, la présence de représentants politiques lors de cette réouverture?
Elle symbolise en fait que ce n'est pas juste un lieu de culte, qui est inauguré, c'est une cathédrale qui a une place importante dans l'imaginaire collectif. C'est pour ça que je parle un peu d'un moment d'unité nationale. Il y avait quand même pratiquement toutes les instances de la République étaient présentes pour l'inauguration et même pour la première messe, le président de la République s'est déplacé une deuxième fois. Donc ça montre bien que cette France qu'on croit souvent être une France laïque, sécularisée, est en fait une France fortement attachée à ce patrimoine religieux, chrétien, qui n'est pas seulement un patrimoine esthétique, architectural, mais qui est aussi un patrimoine en tant que lieu de prière, de spiritualité ou d'émotion religieuse.
La participation d'artistes internationaux lors de cet événement reflète-t-elle un rapprochement entre l'art, la foi et les différentes cultures, selon vous?
Entre l'art et la foi et les cultures. Alors, en fait, j'ai très envie de vous dire que en entrant dans cette cathédrale, on a un profond sentiment d'émerveillement devant la beauté architecturale du lieu. Ce lieu maintenant restauré est plein de lumière, une lumière qui soutient en fait l'élan vertical de l'esthétique gothique. Et je peux vous dire que à regarder ces croisées d'ogives épurées, en fait tout le bâtiment, son architecture, cette lumière, elle invite à la méditation, elle invite aux pensées spirituelles, elle invite à la prière. Et donc il y a un profond lien entre foi et culture quand on s'assied dans cette cathédrale et quand on ferme les yeux, même au moment de l'inauguration, et que les petits chanteurs interprète le Messie de Handel ou une autre pièce. Enfin, on est dans une émotion religieuse et spirituelle extraordinaire dans ce bâtiment.
Pensez-vous que cet événement puisse avoir un impact durable sur la manière dont les jeunes générations perçoivent la foi et le patrimoine religieux?
Alors, ça c'est... La France a eu deux grands moments d'unité très récemment, avec les Jeux Olympiques et puis maintenant cette inauguration de la cathédrale. Les effets durables, c'est pas toujours évident. Après des grands moments d'émotion, l'actualité sociétale, politique, les soucis des uns et des autres reprennent souvent le dessus. Ceci étant, les gens sont vraiment ravis de cette cathédrale et vont vivre une émotion de type religieuse en la visitant. On attend des milliers et des milliers de visiteurs actuellement. Tout le monde veut la redécouvrir, surtout qu'elle est exceptionnelle et qu'elle est merveilleuse. On aura des pensées spirituelles. Est-ce qu'elles sont religieuses? Ça, c'est autre chose. J'ai quelques doutes là-dessus.
Oui. Et comment Notre-Dame peut-elle devenir un lieu emblématique pour l'unité spirituelle et nationale dans un contexte de fracture sociale?
Alors en fait, oui, elle est un lieu, elle ne peut pas devenir, elle est un lieu un peu d'unité. On a senti au moment de l'incendie, de ce terrible incendie du 15 avril 2019, une émotion incroyable. Dans les rues, les gens se mettaient à prier. Et le président de la République l'a d'ailleurs dit dans son discours que qu'il soit musulman, protestant, catholique, juif, ou qu'ils ne croient pas au ciel, des gens se sont arrêtés, ont eu une prière ou une pensée pour cette cathédrale, et donc elle est un lieu. Elle est un lieu d'unité, cette cathédrale. Et puis en même temps, en même temps, ce n'est qu'une cathédrale. En fait, l'unité du pays, elle se construit dans notre, en tout cas en France, autour des promesses de la République, c'est-à-dire d'une promesse de liberté, d'égalité et de fraternité. Et nous devons tous y travailler. Les lieux symboliques ne suffisent pas. L'unité, et notamment la fraternité, a besoin de la contribution de tous les citoyens.
Et comment, personnellement, vous percevez l'appel du pape à voir cette réouverture comme un signe prophétique du renouveau de l'Église en France?
Alors, je ne sais pas trop comment interpréter cette phrase d'y voir un signe prophétique de la réouverture. L'Église catholique en France, en fait, est engagée dans un processus de mutation. Un sondage récent qui date du mois de mars 2023 montrait que l'identification ou l'appartenance à l'Église catholique a fortement chuté entre 2010 et 2020. Elle est pratiquement passée de 43% à 25% de la population active, hein, donc c'est des 19-60 ans. Et en même temps, cette Église catholique vit un profond renouvellement parce que, en fait, aujourd'hui, elle devient une Église confessante. Elle a multiplié par 30% deux années successives le nombre de baptêmes d'adultes, ce qui montre bien qu'il y a une adhésion à cette Église et l'identification à la cathédrale en plein cœur de cette société laïque peut être un vecteur, en tout cas, de renouveau et d'adhésion à l'Église catholique.
Nous sommes dans le dialogue des religions. Nous parlons de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Et notre invité, pasteur Christian Krieger, est président de la Fédération protestante de France. Et nous observons une petite pause et nous revenons dans un instant. pasteur Christian Krieger est toujours avec nous en ligne. Il a été à la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris. Pasteur Krieger, l'idée de faire payer l'entrée à la cathédrale rénovée suscite un débat. Quel est votre avis sur l'équilibre entre sacré et gestion économique?
Eh bien, tout projet ecclésial s'inscrit dans une réalité économique et il faut à chaque fois trouver un équilibre finalement entre le coût d'un projet et les ressources pour pouvoir le porter. Certains projets ont besoin d'être financés avec des apports extérieurs. En fait, le débat qu'on a, c'est que la ministre de la Culture, Rachida Dati, a émis l'idée de faire payer l'entrée à la cathédrale de Paris pour entretenir le patrimoine religieux par ailleurs. Pas pour entretenir la cathédrale, pour entretenir le patrimoine religieux par ailleurs, donc toutes les églises sur le territoire national. Et en fait, l'archevêque de Paris a dit que ce n'était pas du tout la philosophie, ni la conviction de ça, ni la sienne, ni celle d'ailleurs du diocèse ou de l'Église catholique. Et d'ailleurs, le pape l'a souligné dans le message qu'il a envoyé, parce que il écrivait très très subtilement dans son message qu'il comptait sur l'archevêque pour assurer l'accueil généreux et gracieux de tous ceux qui viendraient dans ce lieu. Voilà, donc on a besoin de trouver des équilibres économiques et en même temps, je crois que c'est très très important qu'un lieu de prière soit ouvert et puisse accueillir celles et ceux qui veulent s'y rendre, le découvrir. Et donc je suis assez d'accord avec l'archevêque de Paris que ce soit un lieu généreux parce que c'est notre patrimoine commun, qu'on puisse l'offrir très généreusement avec tous les visiteurs qui viennent à Paris. La visiter me semble être une très bonne philosophie.
Et demander peut-être des contributions volontairement.
Ah ben, il y a tous les troncs pour soutenir l'entretien d'un bâtiment dans l'ensemble des églises que nous visitons. Donc l'appel à la générosité est une chose. Faire payer une entrée et d'une certaine manière avoir un critère sélectif peut-être aussi. Voilà, peut-être les jeunes étudiants s'y rendraient plus difficilement. Ça me paraît très compliqué.
Et comment les églises peuvent-elles collaborer pour préserver le patrimoine religieux tout en répondant aux défis contemporains tels que l'immigration et la justice sociale?
Alors ça, on quitte complètement la question de la cathédrale, en fait. Les églises sont fortement engagées, à la fois dans un plaidoyer au niveau de notre pays. Nous estimons que les gens qui sont persécutés dans leur pays pour quelques raisons que ce soit ont droit, parce que nous croyons à la force de la Convention de Genève, ont droit à un asile politique. Alors la France, disait un premier ministre protestant, ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit prendre sa part. Donc les églises sont très soucieuses que quand quelqu'un arrive sur le sol français, qu'une procédure de demande d'asile puisse être instruite, et si effectivement la personne est éligible, qu'il puisse être accueilli. Si la personne n'est pas éligible, alors effectivement, il faudra qu'elle retourne vers son pays. Et les églises ont mis en place, et l'église catholique et les protestants aussi, ce qu'on appelle des couloirs humanitaires, c'est-à-dire un processus d'arrivée, j'allais dire sécurisée, sur le sol, au territoire français, notamment des réfugiés en provenance de la Syrie. Nous avons en fait des ONG qui identifient des personnes qui sont éligibles à la protection internationale et on a signé une convention qui a été renouvelée déjà une première fois et qu'on va devoir renouveler l'an prochain avec le ministère de l'Intérieur pour permettre d'émettre des visas et permettre à ces personnes de venir. Et derrière cet accueil, les églises se mobilisent pour faciliter l'hébergement, l'accès à l'emploi, et mobilise beaucoup de ressources citoyennes, mais aussi des ressources professionnelles, éducatives, afin de favoriser vraiment l'accueil et l'intégration de ces personnes dans la République.
Quelle leçon tirez-vous de la reconstruction de Notre-Dame sur la capacité de la foi à rassembler au-delà des divisions religieuses?
En fait, ce qui m'a beaucoup plu dans cette reconstruction, c'est que nous avons quelque part... Le président de la République avait fixé un délai tout à fait incroyable en disant « nous la reconstruirons en 5 ans ». C'est tout à fait inouï. Et cette reconstruction, finalement, a pu se faire tout en retrouvant des métiers et des artisanats qui avaient été un peu perdus, parce qu'on a pu analyser avec beaucoup de moyens techniques aujourd'hui des fabrications. Et ce délai extrêmement contraint, je le comprends comme une leçon spirituelle, en fait. Le général Georges Lain, qui était un catholique très engagé et qui avait été chargé, en fait, du chantier de cette cathédrale, il est décédé brutalement en août 2023 d'un accident en montagne. Il disait « là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Et en fait, c'est extraordinaire parce qu'effectivement, il y avait un but partagé et une volonté. Et le chemin a été trouvé pour rebâtir cette cathédrale en 5 ans. Et je peux vous dire que finalement, on a senti un tout petit peu chez ces artisans, qui certains sont musulmans, puisque d'autres sont juifs et d'autres croient peut-être pas au ciel, d'autres étaient peut-être protestants, ben on a senti un esprit d'équipe tout à fait formidable. On a senti un peu le souffle des bâtisseurs de la cathédrale, des cathédrales. Vous savez, quand au Moyen-Âge, on construisait une cathédrale, on la construisait jamais pour soi, ni pour ses enfants, ni pour les petits-enfants. On la construisait pour des générations. Et bien aujourd'hui, au XXIe siècle, je ne sais pas combien, des centaines d'artisans ont travaillé, certains peut-être avec un artisanat assez simple, d'autres peut-être un artisanat très technique. Ben, on travaillait pour des générations, pour qu'ils aient un lieu de prière, de spiritualité, qui les élève à cet édifice, enfin qu'il les fasse vivre la beauté spirituelle de cet édifice magnifique.
Quels efforts concrets peuvent être faits pour que ce moment de réouverture ne reste pas uniquement symbolique, mais devienne, disons, une opportunité d'unité durable?
Alors là, vous je suis à la radio, je ne sais pas trop. En fait, si vous voulez, on a besoin de temps à autre de moments d'unité. Et d'une certaine manière, on les a vécus un peu comme une grâce, comme un cadeau. Ce temps des JO où on a vibré ensemble, ce temps d'unité nationale, il appartient finalement à toutes les composantes de la société civile et les religions et les cultes en sont. Donc l'Église catholique, protestante, mais aussi nos amis juifs, nos frères musulmans, nos frères orthodoxes, nous sommes porteurs un peu d'esprit d'unité, d'esprit de rencontre, d'esprit d'ouverture. Notre pays en a besoin, donc il nous faut poursuivre un peu ce sentier. Quand bien même, si je peux me permettre cela, je vais quand même réagir aussi un tout petit peu en tant que protestant. Vous savez, j'ai vécu notamment la première messe, et je me suis senti très, très protestant. Et j'ai compris finalement qu'il y a toute une part du langage religieux du catholicisme qui n'est pas le mien. Alors j'étais très heureux pour mes frères et sœurs catholiques qui retrouvent cette si emblématique cathédrale. Et en même temps, tout le rituel lié à l'onction de l'autel, à la litanie des saints, à la bénédiction d'objets ou à la multiplication des gestes rituels sont très distants en fait de ma spiritualité. Et donc c'est extraordinaire de voir à la fois cette distance et cette proximité de joie et de fraternité. Donc nous pouvons vivre ça en tant que culte, en tant que religion, et nous continuerons d'y travailler pour essayer de pérenniser cet esprit d'unité.
Et comment Notre-Dame, en tant que lieu de culte, peut-elle intégrer les autres traditions chrétiennes dans sa mission spirituelle et culturelle?
Alors, très simplement, je pense que Notre-Dame avait invité... Alors, la messe d'ouverture était résolument catholique, comme je viens de l'expliquer, mais était présent et invité à la fois le recteur de la Grande Mosquée de Paris, le coprésident de l'Union des bouddhistes de France, était invité aussi les Juifs, le grand rabbin. Alors, il n'a pas pu se libérer, mais il est venu sur le plateau. Donc, toutes les cultes ont été associées à ce moment. Et nous l'avons vécu de plein cœur. avec beaucoup de joie, notamment pour nos frères et sœurs catholiques qui retrouvent un lieu magnifique. Et nous l'avons aussi vécu profondément spirituellement. On a pu dire nos prières ou s'associer aux prières telles qu'elles étaient formulées. On s'est dit que nous allons prochainement, lors d'une des rencontres de la conférence des responsables de culte en France, donc c'est la plateforme de collaboration interreligieuse en France, qui regroupe donc des représentants de ces quatre, de ces cinq cultes, eh ben, on va faire notre prochaine rencontre à la cathédrale pour peut-être encore mieux la découvrir et lui donner une place dans notre mission commune.
Oui, donc le rôle de Notre-Dame comme monument national et spirituel qui a favorisé, disons, les relations interreligieuses en France. Pasteur Krieger, en tant que leader spirituel, comment envisagez-vous d'utiliser des événements comme celui-ci pour sensibiliser les fidèles au vivre ensemble et à la paix mondiale?
Eh ben, c'est un peu ce que je vous disais. J'ai écrit une petite note qui est devenue publique, qui a été diffusée à plus de 20 000 exemplaires sur la manière dont j'ai vécu ce moment-là. Comme pour inviter, j'allais dire aussi tous les protestants à s'associer à cette joie, à reconnaître les qualités esthétiques qui invitent à la prière et la spiritualité du bâtiment, à peut-être sentir aussi ce qui nous différencie du catholicisme, mais à les vivre ensemble dans le cadre d'une profonde fraternité. Donc c'est vrai que j'ai utilisé cette inauguration pour partager mes sentiments par rapport à ce que nous avons été plus de 2 millions à suivre en direct sur France 2.
Il y a eu plusieurs contributions venant même de l'étranger pour rebâtir Notre-Dame de Paris. Quels enseignements tirer des efforts communs de restauration dans un contexte de diversité religieuse?
Eh bien, en fait, c'est une invitation à vivre l'inverse aussi. Je crois qu'on a eu plus de 550 000 contributeurs qui ont rassemblé plus de 800 millions d'euros. Pour rebâtir cette cathédrale et les fonds sont venus de grands donateurs et de petits donateurs même la veuve a pu donner quelques centimes et en fait tout le monde a contribué pour cette cathédrale. Je crois que c'est important aussi de vivre ce temps d'élan, nous en tant que chrétiens, quand il s'agit effectivement d'un lieu de culte ou d'un lieu symbolique qui n'est pas nécessairement chrétien. Alors, et de vivre cette générosité fraternelle interreligieuse aussi dans l'autre sens, vers le culte musulman, vers le culte juif, vers le culte bouddhiste.
L'absence du pape François à cet événement, est-ce que ça a créé des interrogations?
Alors, en France, on a beaucoup discuté, puisque le pape François a décidé de ne pas venir pour cette inauguration, mais il viendra le week-end prochain en Corse. Et vous allez me dire qu'il est venu finalement trois fois en France, une fois pour s'exprimer devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg, une fois à Marseille lors des journées méditerranéennes, et une fois en Corse. Donc il vient en France plutôt vers les marges que vers finalement la capitale. En fait, je crois que le pape François a fait le choix de ne pas faire des visites protocolaires qui auraient une haute dimension politique, mais plutôt des visites à caractère pastoral, donc le Conseil de l'Europe, la Méditerranée ou la Corse. Et donc c'est un choix qui lui appartient. Alors je ne peux pas le commenter outre mesure, je constate simplement qu'il n'est jamais venu à Paris.
Merci beaucoup, pasteur Christian Krieger et président de la Fédération protestante de France. On parlait de la réouverture de Notre-Dame de Paris, un symbole de résilience et d'unité transcendant les frontières culturelles et religieuses. Eric Manilakiza était avec vous au micro. Joselle Morissin assurait la réalisation de cette édition. Pasteur Krieger, un grand merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce dialogue des religions. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.